pêle, 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 mêle, pêle, 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 mêle. Pêle, 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 mêle, pêle, 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 mêle. Pêle, mêle, l'émission où tout s'en mêle et se démêle d'un coup de pelle. Pêle, mêle, l'émission où tout s'en mêle et se démêle d'un coup de pelle. Et oui, ne cherchez plus, vous êtes bien sur Timbre FM, la radio des champs, des bois et des rivières, canal 106.6, dans l'émission Pêle-mêle, l'émission où tout, tout, tout se rappelle et se mêle anges et démons.
Qui c'est? Qui c'est? C'est le plombier?
Non, ce n'est pas le plombier, c'est Oségan. Oségan, une personne, un personnage haut en couleur, épique, tout droit sorti ou issu d'un conte. Son conte de vie, c'est dans la réalité du 21e siècle qu'il le décline. Aujourd'hui, nous allons suivre ses pas à travers les légendes qui peuplent les histoires du monde, les contes.
Bonjour. Au commencement, paroles et musique sont une. Et d'après les mythes, elles nous proviennent du chant des étoiles et de leur danse. Car les premiers êtres humains, fin de la journée, s'asseyait en haut des vallées et des collines et des montagnes pour regarder la lune et les étoiles se lever. Et pour retrouver ce chemin, ils nous disent « Crée la beauté ».
Donc une belle introduction de Oségan sur le monde qui nous est à la fois autorisé à voir avec nos yeux et avec notre esprit en fait. Donc Oségan, parce qu'il est devant moi, vous ne faites que l'entendre, il est devant moi avec une lyre et un micro et toutes ses pensées. Donc je vais vous présenter un petit peu ce personnage, car c'est un personnage tout en couleurs. De son vrai nom, Olivier Perpère, il est devenu Oségan. Il a pris le nom d'Oségan après 36 vies. Eh oui, 36 vies, c'est beaucoup, mais il faut beaucoup de temps pour se construire. Il a voyagé de ville en ville, comme les saltimbanques, les troubadours et les bardes. Dans sa besace, des contes, des musiques. Enraciné dans le légendaire de Brocéliande, il propose différents répertoires et des contes de sagesse du monde entier. Il s'accompagne avec des instruments insolites, et ça je suis témoin, ils sont vraiment insolites, dont certains sont des reconstitutions d'instruments joués par les troubadours. Il dispose d'une collection de plus de 60 instruments et il travaille régulièrement avec le centre de l'imaginaire arthurien à Brocéliande. Alors, c'est tout un programme, parce que en discutant avec Oségan tout à l'heure pour préparer cette émission, on s'est rendu compte qu'une émission de 45 minutes, cela ne serait pas suffisant. Donc il faudra qu'on reprenne rendez-vous. Voilà. Pourquoi Oségan? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu la signification de ce nom?
Alors Oségan, c'est du breton francisé. Nosgan, ça veut dire le chant de nuit. Et on a donné cette appellation à des personnages du peuple magique, du petit peuple. Parce que les Oségans, ce sont des cousins des Korrigans. Et à l'époque de la Grande Union, les humains appelaient souvent les Korrigans, le roi des Korrigans, à l'aide. Parce que nous œuvrions ensemble, il y a longtemps, fort longtemps. Et quand il fallait faire passer une route par-dessus les montagnes ou dessous la mer, on appelait le roi des Korrigans, le roi des lutins. avec sa canne magique, trois coups par terre et hop, la route passait par-dessus les montagnes et dessous les mers. Mais les humains, on a perdu l'habitude d'œuvrer par nous-mêmes. Et le peuple magique décida, elfes, fées, korrigans, lutins compris, de ne plus nous apparaître et d'être pour nous des miroirs de vérité, si, par hasard, on les rencontre.
Franchement, vous n'avez pas cette chance d'être devant Oséguant, mais c'est vraiment un personnage qu'il faut voir aussi, parce que l'entendre, c'est une chose, mais le voir, c'est, il est rayonnant dans son apparence. Et vous entendrez certainement, à l'occasion de cette interview, son éclat de rire qui est particulier. Il rit très, très facilement. Alors, démarrons notre rencontre Oséguant. J'ai lu le livre qui s'intitule « Les légendes du premier chaman » que tu m'avais dédicacé en plus, parce que j'ai eu la chance d'avoir une dédicace, qui raconte donc des contes sur les premiers chamans dans les différentes régions du monde. Et je discutais avec toi à propos des derniers textes qui étaient sur les trois signes. Et par rapport aux contes, il faut avoir une excellente mémoire pour pouvoir raconter tous ces faits, ces détails, etc. Donc, par rapport aux contes, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de la conception des contes et comment tu vois les choses ?
Alors, dans cet ouvrage, hein, Les légendes du premier chaman, j'ai reçu des contes directement de la part des personnes. Je pense à Babou le Dogon, qui m'a parlé de la cosmogonie de son peuple. Je pense aussi à Bouna d'Australie, qui lui il m'a parlé par contre de l'ethnie à laquelle il appartient. Et puis après, ce sont aussi mes recherches, mes rencontres personnelles. Le conte, pour moi, mais c'est là dans la filiation traditionnelle, c'est la première parole. C'est la première parole avant les religions, avant les philosophies. Et cette première parole, on était tous assis en rond, en cercle, tous dans le même cercle, autour d'un feu.
Mmh. Justement, dans l'épilogue, tu soulèves la question de savoir d'où viennent les contes, les légendes. Parce que les légendes et les contes, ce sont des choses qui sont écrites, mais généralement, ce sont c'est issu d'une tradition orale.
Oui, tous les peuples ont cette tradition orale. Alors, pour ce qui concerne l'Europe, on a eu des collecteurs beaucoup au XIXe siècle. Avant, on a eu aussi des collecteurs au Moyen-Âge. Et il y a eu des moments où le fil n'était pas très clair, mais le conte, il n'a jamais disparu. Il passe d'un cœur à un autre cœur. Je préfère dire cela plutôt que d'une bouche à une oreille.
Oui.
Parce que c'est vraiment destiné au cœur.
Mais d'ailleurs, ça se ressent dans les textes, justement, cette humanité qui existe entre les personnes, les peuples. D'ailleurs, il y a pas mal de similitudes dans les textes, et on se rend compte que, quel que soit l'endroit sur cette planète, il y a des points de rencontre. Et donc, par rapport à ce texte qui raconte l'histoire des trois signes, qui représentait une humanité importante, et il n'avait pas de morale au sens un petit peu comme je te vois hocher la tête, je te laisse répondre tout de suite.
Oui, merci Marc. C'est vrai que le conte, il a pu être utilisé à des fins, on va dire, politiques et religieuses, hein, parce que les hommes sont les hommes. Mais dans ce conte-là, Les Trois Signes, qui est un conte de la région d'Ars en Allemagne, c'est un jeune homme qui est tellement ébloui par la beauté de ces trois signes qui, en fait, sont des femmes fées, des femmes signes, qu'il a envie de partir avec elles parce que son village est trop petit pour lui. L'horizon des palissades et du clocher ne lui suffisent plus. Il a envie de voir d'autres mondes et il vole une robe de plumes de ces femmes, mais c'est parce qu'il veut les suivre. Et nous, quelque part, c'est notre histoire, c'est-à-dire que nous sommes dans un monde aujourd'hui oppressif. Et c'est pas facile de trouver son chemin dans les situations, et on a soif de beauté. Et c'est ça qui est au fond de nous, hein, cette recherche. Et les contes, Les contes, ce sont des propositions. Souvent, le personnage de départ, c'est un handicapé, un bossu, un boiteux, quelqu'un qui, justement, n'a pas toutes les chances. Mais c'est lui, c'est le dernier fils de la famille, c'est celui dont on se moque, c'est le plus jeune, c'est le plus difforme, mais c'est lui qui devient le héros. Parce que il a transformé toute l'opprobre qu'on a jeté sur lui, toute la moquerie, en beauté, par sa vie et par ses aventures.
Alors je pourrais, moi en tant qu'handicapé, je pourrais faire partie d'un conte comme héros. Mais non, je préfère laisser la place à d'autres que moi. Donc par rapport à ce matin, c'est un petit peu difficile par moment. Vous savez pourquoi ? Vous vous souvenez que dans le pilote zéro, je vous avais expliqué que j'étais parkinsonien et que des fois, j'ai du mal à associer deux, trois mots à la suite. Mais l'important, c'est que vous me compreniez. Donc, comme tu disais, le conte, c'est une histoire qui se transmet de bouche à oreille.
De cœur à cœur.
De cœur à cœur. Voilà. Dans tous les pays du monde, en fait, c'est une tradition orale qui fait partie de la mémoire collective. Voilà. C'est un petit peu à ce niveau-là que je voulais faire le lien par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a beaucoup de similitudes par rapport aux différents contes. Mais par rapport à ces contes, donc tu es allé les chercher auprès des principaux intéressés, tu m'as dit les Dogons.
Oui, alors il y a plusieurs cas de figure. Hein. Par exemple, pour l'Australie, j'ai vécu 2 mois en Australie. Le Dogon, Babou, je l'ai rencontré en France. Donc il venait pour la première fois à une rencontre des traditions ancestrales. Et donc très vite, on a sympathisé. Donc ça dépend des cas de figure. Après, il y a aussi mes propres recherches. C'est-à-dire, c'est toute une histoire à raconter. Alors, je ne souhaitais pas au départ écrire un livre sur ce sujet. Et parce que ce livre, en fait, c'est plus de 20 ans de ma vie. J'ai recueilli des témoignages et je suis ami du cercle des traditions ancestrales. Et à ce titre, on m'avait demandé d'écrire l'introduction d'un témoignage de plus de 30 chamans sur leur itinéraire, leurs initiations. Et j'avais écrit 4-5 contes sur justement la jeunesse des chamans, comment ils sont nés, et qui faisaient l'introduction de la présentation de cette trentaine de chamans modernes. Mais je ne sais pas si je vais raconter tout ça parce que ça va nous entraîner loin. Et donc sur un festival chamanique, je vois un étal et je vois ce livre Plume de chaman qui est exposé et je m'approche de la dame que je prenais pour une libraire et je lui dis c'est bien, vous exposez notre livre. Elle dit ah bon, mais vous êtes qui? Alors je dis je suis aux Égans, j'ai écrit. Elle me dit c'est vous, c'est super ce que vous avez écrit, tout ça. Et je lui dis ah bon. Et du coup, dans ma tête, je dis, mais alors, c'est qui cette dame? Parce que je dis, mais alors, vous êtes qui, s'il vous plaît, madame? Elle me dit, c'est moi l'éditrice. Parce que je ne l'avais pas rencontrée. Et j'avais offert ça au cercle de sagesse des traditions ancestrales, parce que ça leur permet de faire une caisse pour payer les frais des déplacements des chamans qui viennent en Europe et qui ne se font pas payer quand ils vont dans les festivals. Simplement, ils demandent à être défrayés de leur. Une chamane qui vient de Sibérie, ça fait un déplacement. Hein.
Oui.
Je me présente et je lui dis, écoutez madame, j'en ai un livre comme ça, d'histoire. Et alors elle me dit, je le prends.
D'accord. Alors par contre, par rapport au... Tu as prononcé le terme de chaman.
Oui.
Alors voilà, donc...
Chaman, c'est un terme qui vient de Sibérie, hein, des Tongouzes, une ethnie particulière. Alors aujourd'hui, c'est devenu un terme générique hein, qui désigne beaucoup de personnes qui sont des intercesseurs entre notre monde à nous et le monde des esprits ou le monde des divinités. Mais on va développer ça. Et chaman, dans la langue tongouze, il y a 2 grandes définitions. La première, c'est qu'ils disent c'est celui qui fait beaucoup de mouvements. Mais parce que quand le chaman entre en transe, il danse et il a des gestes qui sont pas dans une logique chorégraphiée. Mmh. C'est dans l'instant du moment et dans l'instinct, je dirais aussi, du moment, par rapport aux soins qu'il a donnés, par exemple, ou à une autre cérémonie. Donc celui qui fait des mouvements. Et l'autre étymologie, l'autre racine, que je trouve extrêmement intéressante, et peut-être même plus, c'est celui qui est né 2 fois.
Ah oui, c'est intéressant.
Voilà, donc on est première naissance humaine par notre mère, et qu'on soit homme ou femme, je rappelle, parce que c'est pas clair dans la tête de tous les hommes, qu'on soit homme ou femme, on passe tous 9 mois dans le ventre d'une femme pour venir ici sur cette terre. Donc, grand respect qu'il ne faut jamais oublier. Et on a cette première naissance, et après on a une autre naissance, celle de l'esprit. Et les chamans, ce sont ceux qui nous ouvrent les portes.
Alors justement, tu es de ces gens qui nous ouvrent les portes, mais tu ne te dis pas chaman.
Ah non, non, parce que un chaman, c'est quelqu'un aussi dont la vocation est d'aider et de soigner et de guérir. Et moi, je ne suis pas un soignant, bien que une fois, c'est un Africain, un guérisseur africain qui me disait ça, et aussi un danseur aztèque, il me disait « Ah mais Ozegan, mais t'es un grand chaman, parce que tes histoires, ta musique, eh ben tu fais du bien à tout le monde, et c'est collectif. » Alors vu comme ça...
Ben oui, soigner, c'est aussi être de cette manière.
Mais un chaman, il voit le monde invisible, et dans la tradition sibérienne, il connaît les 3 mondes, et il est capable d'aller voyager dans ces mondes, par l'esprit. Eux, pour rentrer dans le détail, ils considèrent par exemple que chaque organe, alors ça dépend des ethnies, après il y a des variantes, hein, mais chaque organe possède une âme, on pourrait dire un principe vital. Et quand ce principe vital n'est plus là, pour eux, dans leur cosmogonie, dans leur manière de voir le monde, ça veut dire qu'il est volé, qu'un esprit négatif l'a pris ou le retient prisonnier, l'a capturé dans les mondes obscurs. Et lui, le chaman, c'est pour ça qu'il va faire une danse, qui est le voyage qu'il fait, qu'il entreprend pour aller dans ce monde et ramener ce principe vital à la lumière, et ramener donc la guérison à la personne. Donc, c'est pour ça que aujourd'hui, il y a une facilité où il y a des médiums qui disent « Ah ben, je suis chaman », qui se présentent comme ça, mais un chaman, il est médium. Mais un médium n'est pas forcément un chaman. Hein. C'est 2 choses très différentes. Le chaman, lui, va dans les autres mondes et il en revient.
D'accord.
Un médium ne fait pas forcément ce voyage.
Eh bien, nous sommes toujours sur 106.6 dans l'émission de Timbre FM, pêle-mêle. Alors, pêle-mêle, parce que c'est vrai que c'est pêle-mêle, c'est un petit peu à la fois dans une direction et dans une autre direction. Et en fait, aux quatre vents, on a ouvert toutes les portes, toutes les énergies. Ce matin avec Ozegan qui nous parle de ses contes et légendes qui ont bercé aussi les générations d'enfants. Parce que effectivement, dans le fonctionnement du conte, on était habitué aux contes pour adultes et il ne faut pas oublier les contes pour enfants.
Oui, oui, merci Marc. C'est-à-dire que on a encore une fois recueilli les contes beaucoup au collectage au 19e. Et avant aussi, et ces contes, ils étaient racontés pour tout le monde, mais c'est vrai qu'il y avait des contes très cruels, très violents, très sanguinaires. Alors en général, le conteur, qui pouvait être la grand-mère, le grand-père, c'était familial, hein. À la campagne, on comptait lors des fileries le soir, à la veillée, hein. Ils filaient la laine ou le lin, selon les endroits. Et on racontait d'abord des choses marrantes, les nouvelles du village, et après les contes plus durs, ben les enfants, ils étaient endormis. Alors, il y a des auteurs, et je trouve que c'est un bien, qui ont écrit spécialement pour les enfants, et je pense que dans toutes les traditions, le conteur savait à qui il s'adressait. Il n'allait pas raconter des histoires épouvantables à des enfants qui, pendant des mois après, allaient faire des cauchemars. Donc, mais disons que pour ce qui concerne l'Europe, voilà, on sait que les contes ont été remaniés pour le public enfant et je trouve à juste raison.
Alors, nous avons la chance, enfin j'ai la chance, et puis nous, parce que Loïc est avec moi, et puis Ozegan, il a la chance d'être avec lui-même en même temps, donc... Mais tu peux rire dans le micro.
Bon, d'accord. Mais j'ai la chance d'être avec vous déjà ce matin ici, parce que c'est une équipe, je le dis au passage, super sympa.
Ben merci. Donc, pour les auditeurs, j'ai Ozegan qui va nous faire un petit morceau en live, justement, de musique. Sachant qu'à la fin de l'émission, je vous donnerai les références de son site où vous pouvez vous procurer ses livres et puis ses enregistrements. En tout cas, si vous ne connaissez pas Ozegan, Ben, il faut que vous le rencontriez à travers ses musiques et ses textes, parce que c'est une personne qui est pleine de cœur. Et effectivement, ce qu'il disait tout à l'heure, c'est quelqu'un qui est dans le partage. Et c'est rare aujourd'hui, enfin, pas pour moi, parce que je me rends compte que dans les invités que j'ai depuis le début de ces pilotes, puisque là nous sommes au quatrième pilote, et que ces pilotes font que vous allez connaître notre émission, tous les gens que j'ai reçus jusqu'à maintenant sont dans ce partage du cœur. Et ça, c'est bien. Alors, Ozegan, je te laisse, pas la parole, mais la musique.
Oui, 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 oui. Alors, pour beaucoup, en tout cas, pour ce qui concerne les racines européennes, hein, on le sait chez les Grecs, je disais à la lyre au commencement que parole et musique sont une. Et si dans les peuples altaïques, c'est le tambour qui est l'instrument, et même aussi chez les peuples amérindiens, et qui permet le passage d'un monde à un autre, dans les cultures européennes pré-chrétiennes, et même au commencement aussi du christianisme, la lyre est l'instrument qui permet le passage d'un monde à l'autre et qui unit le ciel à la terre et qui unit l'ombre à la lumière. La harpe, après, a hérité de cette fonction et du prestige qu'a la lyre. Et c'est pour ça que j'avais souhaité, c'est un petit clin d'œil, hein, commencer avec un morceau de lyre. Mais là, je vais vous jouer un morceau de flûte. Et justement, dans l'ouvrage en question, là, il y a un conte qui explique comment la flûte est arrivée. Et il s'agit justement d'un petit enfant, un petit Indien handicapé. Alors, tu disais qu'il n'y a pas de conte pour toi. Alors, Marc, si je peux me permettre, avec toute la sympathie et l'amitié que j'ai pour toi, il y a un conte pour chaque personne.
Super. Non, mais ça m'étonne pas par rapport à ce que tu dis.
Il y a un conte pour toi, il y a un conte aussi pour notre ami Loïc qui est au son, il y a un conte pour moi, et même en allant plus loin, bah, tu verras qu'il n'y en a pas qu'un, il y en a plusieurs. Et merci la vie, c'est cadeau. Alors lui, ce petit enfant, il est très connu, c'est Cocopelli. Tu vois, il est né avec une jambe plus courte que l'autre, il est bossu, c'est un peu la risée. Eh ben lui, il déplaît aux filles. C'est important pour un jeune garçon de plaire. Et là, bon, il n'a pas une image exceptionnelle. Mais c'est lui que la vie choisit. Parce que justement, il souffre plus que les autres. Et dans cette souffrance, ben, t'es obligé d'aller te rencontrer et d'aller chercher dans l'ombre qui tu es, vraiment. Parce que c'est insupportable. Alors soit ça devient de la haine, tu vois, et là, c'est encore plus insupportable. Hein. Et donc, moi, j'ai un grand respect pour les personnes, justement, voilà, qui souffrent, quel que soit le handicap, quoi, parce que c'est terrible, quoi, hein, comme chemin de vie. Alors, il reçoit ce petit enfant Cocopelli. Hein, c'est celui qui sème la joie là où il y a la tristesse. C'est celui qui amène la fécondité dans les troupeaux et aussi sur les terres. C'est le semeur à tous les niveaux. Et c'est pour ça que l'association Cocopelli, là, de sauvegarde du vivant, a pris ce nom, puisque Cocopelli, c'est lui qui sème au vent, c'est un conteur, c'est un danseur, c'est un musicien, c'est un guérisseur. Et il a tous les métiers. C'est le premier chaman. Des Anasazi, des Zuni, de tous ces peuples proches de l'Amérique latine, hein, mais le sud des États-Unis, l'Arizona, etc. Les Hopi aussi, beaucoup les Hopi parlent de Cocopelli. Donc voilà, alors c'est la flûte de l'aigle qu'il a reçue un jour parce qu'il a aidé des animaux qu'il a rencontrés sur son chemin et des animaux qui souffraient, hein, pour diverses raisons. Alors, thank you.
un mot.
Une phrase.
Oh, un paragraphe.
Ouh, un chapitre.
Un livre, un livre.
Vous êtes bien sur Timbre FM dans l'émission Pêle-mêle, l'émission qui se situe dans les ondes à 106.6. Mais au-delà des légendes, dans le ciel étoilé, je laisse aux aigans continuer.
C'est Amadou Mpateba qui dit « Le conte est comme un miroir d'Olys. Chacun, chacune, s'il sait y regarder, peut y découvrir sa propre beauté et celle de l'univers. »
Et oui, donc c'est une lettre, un beau mot, une belle phrase, un paragraphe. Il faut savoir que vous êtes des fous. Parce qu'il n'y a que les fous qui croient aux histoires. Nous sommes tous des fous. Et pour reprendre Einstein, car je tenais à le souligner, il disait que si vous voulez que vos enfants soient intelligents, l'intelligence du cœur, l'intelligence de l'esprit, il faut leur lire des contes de fées. Car c'est une possibilité pour eux de s'ouvrir au monde. Et les contes et les légendes permettent d'ouvrir des portes. Mais des portes qui sont souvent fermées et qu'il faut, pour ouvrir, utiliser le cœur, le partage. Ce sont des mots qui reviennent beaucoup ce matin, mais ils sont extrêmement importants. Et maintenant, Ozegan, je souhaiterais te poser une question. L'acceptes-tu ?
Oui, oui, oui.
Et si ? Et si tu pouvais améliorer quelque chose dans ce monde, que souhaiterais-tu voir évoluer ?
C'est une grande question.
Tu as 2 minutes pour répondre.
Sinon, c'est le camp de rééducation. Non. Oui, c'est une grande question. Je crois que c'est l'histoire du petit colibri, hein, vous savez, là, qui, il y a un grand incendie dans la forêt, et il passe, lui, avec une petite goutte d'eau, il va bombarder les flammes, tous les animaux, il dit, mais qu'est-ce que tu fais, là ? Il dit, ben, moi, je vais à la mare et je vais éteindre l'incendie, mais ça sert à rien, ce que tu fais. Il dit, oui, mais moi, je fais ma part. Si tout le monde amenait une goutte d'eau, ben, l'incendie, on y arriverait. Donc, c'est ça à quoi je crois, c'est que chacun fait sa part là où il est, plutôt que des grands discours, des gestes simples. J'ai beaucoup d'admiration réelle pour, par exemple, un agriculteur en bio. Tout le monde autour lui envoie des tas de cochonneries, de la chimie, quoi, de la pétrochimie. Et lui, il continue, jour après jour, il revient dans son champ, il regarde son blé. Et lui, il soigne la terre et il nous soigne, nous. Voilà, c'est tout simple. Sourire à une personne âgée ou l'aider à traverser la route, mais des choses toutes simples, toutes banales. Je crois à cette gentillesse-là et qui, pour moi, c'est ça la beauté de l'âme.
Ce qui est intéressant avec cette rencontre avec toi, Ozegan, c'est que tu as une mémoire très importante de textes, et tous les textes, en fait, sont des métaphores qui développent un sens de la compréhension des choses qui se met en images. Alors, à la radio, c'est vrai que les images, c'est difficile de les avoir, mais grâce aux contes que tu nous donnes, nous avons accès justement à cette évolution.
Mais ce qui peut être fait aussi, c'est une proposition, c'est qu'à un moment, alors il faudra qu'on se revoie, c'est que je raconte un conte. Alors je vais en choisir un petit pour que nos auditeurs ils se rendent compte aussi de la palette audio et qui peut permettre justement de créer des images, même à la radio. Parce que le conte, c'est oral, et oui. C'est audio, c'est pas visuel. Alors je sais qu'il y a des gens qui mettent des contes en scène et tout, bah, c'est très bien. Je veux dire, mais là, si on est dans la tradition, c'est que la parole et la radio, elle est bien indiquée, et au contraire, elle est même la seule indiquée pour le conte traditionnel, authentique.
Donc nous mettrons le conte en banque.
Alors ça dépend dans quelle banque.
Alors, nous voici parvenus à cette rubrique, celle qui vous plaît. Alors, jusqu'à présent, vous n'avez pas entendu les émissions, mais je pense que c'est une rubrique qui vous intéresse. C'est celle du coup de gueule. Le coup de gueule, le coup de pelle. Séquence pêle-mêle. Coup de pelle. C'est qu'on s'en mêle. Alors, aux égants, le coup de pelle.
Eh ben, le coup de pelle, c'est vrai, il faut être lucide, ce monde marche sur la tête. Mais plutôt que de rajouter de l'obscur à l'obscur et de l'incompréhension à l'incompréhension, ce que j'ai envie de partager, moi, c'est, encore une fois, créons la beauté là où l'on est. Parce que si chacun fait sa part... Ben, le monde, il va changer, parce que nous sommes des êtres sociaux. Les humains, nous sommes des êtres sociaux. Et c'est dans le relationnel qu'on peut aussi s'épanouir, qu'on peut trouver un chemin de vie. Et voilà, un chemin d'épanouissement. Donc, voilà, créons la beauté pour soi, créons la beauté pour les autres, et créons la beauté pour le monde, pour la Terre, quelles que soient les activités. Quelqu'un, un terrassier qui fait un super beau terrassement, un super beau rond-point avec des fleurs, et que les jardiniers suivent, mais quand on circule avec sa voiture, qu'on voit ça, mais moi je suis émerveillé, hein, et là il y a plein de ronds-points fleuris, c'est beau, et du coup, ça met une autre énergie dans le monde, une autre onde, plutôt que d'arriver, j'en ai marre, là, la facture du machin, le gouvernement, blah. Bon, donc créons la beauté, et voilà, c'est ce à quoi je crois.
Ben, je crois en la même chose que toi, d'ailleurs, c'est pour ça que tu es invité, parce que sinon je ne t'aurais pas invité. Si.
Merci.
Non, c'est vrai, c'est très important, parce que le fait de voir les choses positivement, c'est une autre métaphore, c'est toujours ce que je racontais à mes anciens élèves. C'était lorsque vous arrivez, vous êtes dans le désert depuis plusieurs jours, quand tu es dans le désert... Et que donc tu arrives avec une soif, une grande soif, et que lorsque tu arrives à un bar et on te propose un verre à moitié plein, et qu'on te demande si ce verre est à moitié plein ou à moitié vide, les enfants naturellement le voient à moitié plein, alors que les adultes le voient à moitié vide. Donc je m'étais posé la question justement, à quel moment il y avait cette bascule entre l'enfance qui acceptait justement quelque chose de, voyait quelque chose de positif, et les adultes qui voyaient le négatif. Et donc, comme j'ai eu des enfants de primaire, je n'ai pas pu le vérifier au secondaire, mais il y a un moment dans la vie des hommes où une prise de conscience négative se fait au détriment de la vision positive.
Alors, effectivement, c'est ces deux stades, et il y en a un troisième, et c'est celui du sage qui voit le verre à moitié plein et à moitié vide, mais comme une unité.
Oui, j'avais pas pensé au troisième verre. En tout cas, qui dit verre dit boire, et vu la chaleur qu'il fait dehors, nous boirions bien une petite chopine, comme tu disais tout à l'heure. Est-ce qu'on a le droit de parler de cela à la radio, Loïc ?
Avec modération.
Une chopinette, alors. Je crois que nous allons malheureusement bientôt arriver au terme de cette émission. Je pense que, enfin, si ce n'était que moi, je pense que je serais resté plus longtemps, bien plus longtemps avec Oségan et Loïc, car nous avons encore plein de choses à partager. Mais j'ai lu dans ses yeux qu'il est d'accord pour que nous nous revoyons prochainement pour pouvoir exploiter et qu'il puisse partager toutes ses connaissances et ce cœur qu'il a certainement plus gros que... Non, alors il dit qu'il n'a pas le cœur gros.
Normal. Un cœur humain, il est fait pour aimer, et tous les cœurs humains, ils sont faits pour aimer et être aimés. Et c'est la fonction d'un cœur normal.
C'est super, tu me donnes le mot de la fin. Donc, Oségan, merci.
Ben, merci à vous, merci à l'équipe de Pêle-Mêle. Super, et puis alors à bientôt.
Merci aux Aigans, merci Loïc. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver le livre « Les légendes du premier chaman » écrit par aux Aigans aux éditions Vega. C'est un livre extrêmement intéressant, un gros livre avec des illustrations. Il correspond bien au personnage, ce n'est pas un livre commun. Et puis, donc, sur le site de ozegan.com, vous retrouverez tous ces documents, son actualité qu'il tient à jour. Il m'a bien précisé qu'il la tenait à jour tous les jours, presque tous les jours, enfin, souvent. Il fait de son mieux. Et tout le monde rigole dans le studio. Donc, ozegan.com, où vous retrouverez donc des enregistrements musicaux aussi, des instruments, parce qu'on n'a pas eu le temps de parler beaucoup de tout cela. Ce sera l'occasion de le refaire venir. Ozegan.com, plus les légendes du premier chaman. Avec ça, vos soirées seront...
Oui, je tenais juste à rappeler que les illustrations, c'est des vraies illustrations au crayon à papier ou à la plume et encre de Chine d'Yves Truchard, qui dans une de ses vies a été anthropologue. Et il y a certains pétroglyphes, par exemple, c'est lui qui en a fait les relevés à la main. Parce que je ne souhaitais pas illustrer cet ouvrage avec des photos, mais avec des dessins archaïques. Donc on trouve des pétroglyphes, des représentations aussi bien chez les Australiens que chez les Amérindiens.
Tu peux expliquer ce que c'est que les pétroglyphes ?
Alors les pétroglyphes, c'est soit des dessins gravés dans la pierre, figuratifs, ou aussi des peintures. Parce qu'en général, souvent, les dessins étaient creusés dans la pierre, mais aussi peints. Alors avec le temps, l'érosion, etc., ça se patine, mais les archéologues, les ethnologues, ils ont retrouvé, quand ils s'y intéressent de très près, les pigments. Voilà.
D'accord.
Et donc Yves, en tant qu'anthropologue, par exemple, il a fait des relevés dans les grottes de l'Arizona de Cocopelli. On a deux pétroglyphes dedans et un pétroglyphe en Australie qui fait une double page vers le milieu du livre. On regarde le livre comme un livre, mais ce pétroglyphe, il était au plafond. Donc, il faudrait prendre le livre, le tendre à bout de bras. D'accord. Et regarder cette double page vue comme ça.
Et pour finir, donc, je citerai sa quatrième de couverture pour me faire plaisir de parler au micro, car je vous rappelle que si je suis là, c'est parce que j'aime parler au micro. Fils de l'aigle ou du serpent géant, né des profondeurs de la mer ou de l'œuf cosmique, le premier être humain est un chaman. Il parle aux esprits et vit en symbiose avec les forces de l'univers, à l'œuvre tout autour de lui et en lui. Merci aux Aigans. À bientôt.
Merci, bonne journée.
S'en mêle et se démêle d'un coup de pelle. Pêle-mêle, l'émission où tout s'en mêle et se démêle d'un coup de pelle.